Voilà, on va lire les premiers versets du chapitre 1, donc les versets 1 à 8. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, donc cette page. Et puis, voilà, comme Jonathan a dit, on commence ce matin une nouvelle série dans cette lettre de Paul à l'église de Colosse. On va le faire en 11 étapes, donc en 11 prédications. Donc, cela veut dire qu'on va le faire en pas mal de détails. Or, ce livre n'est pas le plus long du Nouveau Testament et de loin. On peut le lire assez facilement en 15 minutes. Peut-être même deux fois en 30 minutes, le temps que vous mettez dans les transports en commun le matin, c'est bien de relire et de relire les livres bibliques comme ça pour avoir une bonne idée du message global. Alors pourquoi lire cette courte épître qui date d'il y a 2000 ans? Alors premièrement et avant tout parce qu'elle fait partie des Écritures. Et les Écritures sont la parole inspirée de Dieu, la voix même de Dieu. Et comme Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour vivre, nous avons besoin de ces paroles vivifiantes. Et cette lettre, entre nos mains, ce matin, s'adresse à nous, 2000 ans plus tard. Certes, les temps ont changé. À l'époque, chaque chrétien n'en avait pas un exemplaire imprimé. Ne pouvait pas le lire sur son smartphone ou sur son lecteur électronique. Il ne vivait pas dans un monde d'ordinateur ou de télévision ou d'avion. Et pourtant, et on va le voir, cette lettre n'a rien perdu de sa pertinence. Nous avons besoin de son message tout autant qu'eux. Alors Paul a écrit cette lettre à l'église de Colosse. Où est-ce que Colosse se trouve ? Cette ville se trouve en Turquie ou en Asie mineure de l'époque, pas loin de l'église de la ville d'Éphèse. Certains sont peut-être déjà allés là-bas en vacances pour échapper à la grisaille et le froid parisien. Alors Paul lui-même, l'apôtre Paul, n'a jamais été dans cette ville. Mais il a entendu parler de ces chrétiens par le biais d'un ami, d'un collaborateur, d'Épaphras. On va parler de lui tout à l'heure. Paul lui-même, lors de la rédaction de cette lettre, se trouve bien loin, à Rome, en prison. Il ne peut pas se rendre à Colosse, donc parce qu'il les aime, il leur écrit cette lettre. Alors avant de nous plonger dans les détails des premiers versets, j'aimerais prendre un peu de recul et poser quelques grandes questions. Lorsqu'on lit un livre biblique, c'est important de voir le plan large, puisqu'une fois dans les détails, on peut oublier le message global du livre. Pour l'illustrer, j'utilise parfois l'exemple d'un procès verbal. Est-ce que cela vous est arrivé? J'espère que non. De recevoir un procès verbal, peut-être pour un excès de vitesse ou parce que vous avez mal garé la voiture. Tout de suite, une fois que vous avez ouvert l'enveloppe, vous comprenez le sens et l'application de la lettre. Oui, il y a une amende à payer. Et la lettre vous donne un certain délai, un certain nombre de jours pour le faire. Mais si vous vous perdez dans les détails, si vous commencez à vous émerveiller du petit drapeau bleu, blanc, rouge, ou si vous contemplez la justesse de la loi et vous ne payez pas l'amende, bien sûr, vous n'avez pas compris le sens de la lettre, vous êtes un peu à côté de la plaque, vous risquez une majoration. J'aimerais prendre quelques instants juste pour voir le plan large de ce livre pour qu'on ne soit pas à côté de la plaque, pour qu'on voit la grande application de cette lettre. Où est-ce que l'apôtre Paul veut en venir au juste? Je pense qu'il y a un refrain qui ressort dans cette épître et c'est le refrain « Jésus est suffisant ». Tout au long de l'épître, Paul veut nous montrer la suprématie de Jésus-Christ. Il veut que nous comprenions que Jésus est suffisant pour nous. Il est le début, le milieu et la fin ou le but de la vie chrétienne. Au deuxième verset, on voit qu'il parle des chrétiens comme étant en Christ. Au verset 13, il parle de Christ comme le Rédempteur. Au verset 15, il nous donne une vision haletante de la divinité de Jésus, sa prééminence, le fait qu'il a toute autorité. À la fin du chapitre 1, Paul décrit son propre but, la raison de son ministère et sans doute la raison pour laquelle il écrit cette lettre. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les versets 28 et 29. C'est lui, donc c'est Jésus, c'est Christ que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors ce petit mot adulte veut dire accompli ou mûr. Paul veut que nous soyons tous mûrs, en particulier mûrs en Christ. Et là nous commençons à toucher à là où Paul veut en venir dans cette lettre. La maturité se trouve en Christ. Et Jésus-Christ est suffisant pour cette maturité. L'application clé de la lettre se trouve quelques versets plus loin, au chapitre 2, et les versets 6 et 7 sont deux versets qu'on donne souvent aux nouveaux baptisés. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Paul dit tout cela parce que la tentation de chercher la maturité ailleurs qu'en Christ est grande. Elle est tout aussi grande aujourd'hui qu'à son époque. Oui, on a commencé la vie chrétienne avec le pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on continue la vie chrétienne? Est-ce qu'on va chercher des expériences mystiques ou spirituelles pour nous requinquer? Est-ce qu'on va se donner des lois, des règles sévères, la discipline pour atteindre cette maturité? Est-ce qu'on va chercher dans la psychologie séculière les réponses pratiques pour mieux nous épanouir dans la foi? Est-ce qu'on va préférer les livres d'aide pratique achetés à l'AOPA ou peut-être des articles sur Internet pour nous sentir bien, pour faire face aux problèmes? Est-ce qu'on va se donner au service chrétien jusqu'à l'épuisement pour être à la hauteur de Dieu, pour devenir mûr? La liste de tentations peut être longue et variée. Alors Paul, au chapitre 2, parle de son époque et des philosophies piégeuses qui guettaient les Colossiens ou qui les avaient peut-être déjà piégés et qui n'allaient pas les aider à grandir en maturité en Jésus-Christ. Au contraire. Et au chapitre 3, on va voir ça dans plusieurs semaines, dans quelques semaines, Paul nous montre comment de manière pratique l'évangile de Jésus-Christ peut nous conduire à la maturité, à la sainteté en lui. Il va parler de notre lutte contre le péché, il va parler de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, et à chaque fois c'est Christ, c'est Jésus qui est pleinement suffisant. Jésus est suffisant pour nous. Paul veut que cette conviction soit grande chez nous. On va passer plusieurs semaines à dire la même chose, à répéter ce message capital. Jésus est pleinement suffisant pour nous, pour le salut et pour la vie tout entière. Dans ce début de lettre, Paul parle pour rassurer ses lecteurs. Christ est suffisant et s'assoit déjà chez eux. Ce qu'ils vivent est déjà authentique. Ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs ou d'ajouter à Christ autre chose pour en être sûr. Alors voici notre plan pour ce matin, pour les minutes qui suivent. Si vous avez l'habitude de prendre des notes, ne serait-ce que pour rester éveillé, voici deux grands points. Soyez rassurés, je vois chez vous les marques d'une église authentique. Et deuxièmement, car la parole que vous avez reçue est la parole divine, la parole, la vérité tout entière. Alors, revenons au début de cette lettre, donc les versets 1 à 8. Paul commence la lettre suivant les conventions de l'époque, qui ressemblent beaucoup plus à nos emails qu'à nos lettres. Cette lettre vient de Paul, l'apôtre Paul, l'envoyé de Jésus-Christ. Il vient avec l'autorité de Jésus-Christ. Il y apporte selon la volonté du Père. Il écrit aux frères et sœurs à Colosse qui, grâce à Jésus, sont devenus des saints. Si vous êtes à Jésus ce matin, ça a déjà été dit, Grégory l'a dit dans sa prière, ça veut dire que vous êtes un saint. Vous êtes déjà pleinement acceptable à Dieu. Non pas en vertu de votre propre performance, mais grâce à l'œuvre de Jésus. Et par cette lettre, Paul veut que ses lecteurs connaissent encore plus la grâce et la paix du Père. Ça, c'est l'objet de la lettre. Ce Père que nous avons en commun avec eux, avec le même grand frère aussi, Jésus-Christ. Ensuite, on voit un petit aperçu de la vie de prière de l'apôtre Paul, de sa piété, de sa relation personnelle avec Dieu. Il prie pour cette église, il prie Dieu le Père de Jésus-Christ et il le fait souvent. Tellement ces chrétiens lui sont devenus chers. Il les a jamais rencontrés quand même. Et son cœur est dans la joie, dans la reconnaissance, parce qu'il est persuadé de l'authenticité de l'œuvre de Dieu chez eux. Il va parler de ces marques d'authenticité. Alors si nous nous mettons à leur place, nous pouvons comprendre pourquoi ils avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient accepté cette foi chrétienne il y a quelques années. C'est Epaphras qui, après l'avoir entendu lui-même, est parti pour partager la foi avec eux. Ils auraient pu se dire, est-ce que Epaphras a tout dit? L'apôtre Paul, il ne l'avait jamais rencontré. Ils auraient pu se dire, est-ce que notre foi est vraiment authentique? Et sans doute, ils sont déjà passés par quelques hauts et quelques bas, quelques déceptions, quelques chutes, quelques cas de discipline, d'église peut-être. Et Paul veut les rassurer. L'œuvre de Dieu chez vous est tout à fait authentique. Parce que je vois trois choses. Est-ce que vous voyez ces trois choses au verset 3 à 5? C'est la foi, l'amour et l'espérance. Et ces trois choses sont tellement importantes pour Paul. C'est comme ça que Paul résume, comme s'il écrivait en sténo la vie chrétienne. La foi, l'amour et l'espérance. C'est pour ça que nous l'avons choisi comme slogan pour l'église de la Garenne. Paul sait que cette église porte ces trois marques parce que Epaphras le lui a dit. On le voit au verset 8. Je cite, « Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Soit dit en passant, ces marques nous montrent l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous voulez savoir si l'Esprit est à l'œuvre dans une église, voici les trois fruits qu'il faut chercher. Paul ne parle pas d'exubérance ou de miracle ou de musique très animée. Il parle de foi, de la foi, de l'amour et de l'espérance. La foi d'abord. C'est la foi en Jésus-Christ. Alors cette foi ne vient pas de nous. De nous-mêmes, si ça dépendait de nous seuls, nous serions incrédules. Des hommes et des femmes de peu de foi. Ça, c'est un peu notre positionnement, position habituelle, normative. Mais l'attachement à Jésus-Christ, la confiance en lui, en ce qu'il a fait à la croix, sa personne, ça, c'est la preuve que l'Esprit est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui conduit à la foi, qui suscite la foi. On verra comment dans la deuxième partie. Et on va voir que ces trois marques sont objectives. C'est la foi non pas de manière vague ou mystique, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Cet homme, né à Bethléem il y a 2000 ans. Paul ne parle pas d'un degré de foi ou d'une expérience de la foi. Il parle tout simplement de cet attachement à Jésus, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui est ressuscité pour notre justification, pour qu'on puisse être acquitté, pardonné, libéré. Il parle de Jésus, le Fils de Dieu. À ce vrai, on peut parfois sous-estimer la valeur de Jésus. On le fait tous, n'est-ce pas? Mais c'est extraordinaire de connaître Jésus. Il est celui qui est incomparable, au-dessus de toute autre personne. C'est la plus grande joie, le plus grand plaisir, le plus grand privilège d'être à lui et de l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Il est celui qui dévoile le Père, qui nous montre sa grandeur, son amour, sa compassion, sa sainteté. C'est lui qui nous a réconciliés au Père, à Dieu. Et Paul veut rassurer les Colossiens. Voici une première marque d'authenticité, la foi en Jésus, l'attachement à Jésus-Christ, un attachement sincère à lui. Alors est-ce notre cas? Est-ce mon cas? Est-ce votre cas? Qui est Jésus pour vous? Alors lorsqu'en tant qu'ancien de l'Église, on fait des entretiens avec ceux qui souhaitent devenir membres d'Église, l'occasion pour moi de vous dire que si... cette église est la vôtre, vous n'avez pas encore fait ce pas, pourquoi ne pas devenir membre d'église? Lorsqu'en tant qu'ancien, on reçoit des personnes qui veulent devenir membres, on veut voir, non pas la foi de manière vague, de manière globale en Dieu, mais l'attachement à Jésus-Christ. C'est ça, cette marque d'authenticité. Qui est Jésus pour vous ce matin? Votre Sauveur? Votre Seigneur? Je remercie Dieu pour l'encouragement, que votre foi est vraiment un encouragement. Et on va voir dans les semaines à venir qu'un des buts de l'apôtre Paul, c'est vraiment de fortifier cette foi en nous montrant Jésus qui est suprême, qui est pleinement suffisant. Il veut augmenter notre foi. Ensuite, Paul parle de l'amour au verset 4. C'est l'amour pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les autres chrétiens, de par la surface de la terre. Nous l'avons déjà dit, Paul parle de quelque chose d'objectif et non pas seulement d'un sentiment vague, même si cet amour est accompagné d'un sentiment aussi. Les Colossiens se sont mis à aimer des frères et sœurs qu'ils n'ont jamais vus. Est-ce que ça vous arrive d'être étonné de ce que des personnes qui ne vous connaissent pas prient pour vous? Je connais des églises qui prient pour nous ici à la Garenne sans ne nous avoir jamais vus. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui suscite un amour pareil. Cet amour désintéressé qui veut le bien de personnes inconnues de manière personnelle parce qu'ils sont des frères et sœurs. Cet amour-là, c'est la preuve de l'authenticité de l'œuvre de l'Esprit. Et on le voit ici, dimanche matin, on le voit le jeudi soir aussi, et vous êtes nombreux avoir à cœur des frères et sœurs qui habitent loin, certains qui habitent dans les pays où sévit la persécution. Mais cet amour n'est pas que pour les chrétiens au loin. Alors, dans un sens seulement, c'est plus facile d'aimer ceux qui sont loin. Il peut être plus difficile d'aimer ceux qui sont là, qu'on connaît bien avec leurs défauts, avec nos propres défauts. C'est difficile. Mais on verra dans un deuxième temps comment cet amour naît, comment il se maintient. Mais je pense qu'on peut dire le fait est, cet amour est là. Dans une église, il y a cet amour. Dieu suscite cet amour. Et on le voit, j'en suis persuadé, dans cette église, on le voit. Et cela est encourageant. C'est profondément rassurant, parce que ça veut dire que Dieu est à l'œuvre parmi nous. Cet amour s'exprime d'abord dans le fait de vouloir être ensemble, pour se voir, pour s'encourager, pour apprendre ensemble à aimer Dieu et à suivre le Seigneur ensemble. Et c'est l'Esprit qui donne cette envie. Alors, est-ce notre envie, la mienne, la vôtre? Ou est-ce que l'Église est simplement un dispensateur de services, d'offices religieux? Est-ce qu'on y va quand cela nous arrange, une fois sur deux, quand il n'y a pas d'empêchement? Ou est-ce qu'on a cette envie? Parfois, il y a des choses qui nous empêchent d'y aller, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a cette envie brûlante d'être là aussi souvent que possible, d'avoir comme engagement prioritaire d'être là? C'est l'Esprit qui donne cette envie-là. Bien sûr, l'amour s'exprime de manière supplémentaire aussi, par nos paroles, par nos gestes, par nos appels, l'intérêt que nous portons les uns pour les autres. Et finalement, Paul parle de l'espérance, au verset 5. « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. » C'est intéressant, on pourrait avoir l'impression que puisque nous avons la foi, nous allons espérer. Mais ici, Paul nous dit qu'à cause de ou par notre espérance, nous croyons et nous aimons. C'est l'espérance qui est le moteur, la salle des machines de la foi et de l'amour. Est-ce que vous voyez combien l'espérance est importante? Et notre espérance porte sur quoi, au juste? Elle porte sur ce qui nous est réservé dans le ciel. Bien sûr, si nous espérons, c'est que nous ne l'avons pas encore. Elle porte sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qui nous est réservé dans le ciel? Christ, bien sûr. Jésus. Plus loin, Paul va dire que Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est notre espérance d'être avec lui. D'être avec lui à tout jamais. D'être changé en son image. D'être présenté à Dieu sans faute, sans tâche. En Jésus, avec Jésus, dans la présence de Dieu lui-même. Certes, aujourd'hui, nous avons une certaine connaissance et expérience de Dieu. Jésus a dit lui-même que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de le connaître Jésus. Et on peut faire sa connaissance aujourd'hui, on peut avoir une expérience dès aujourd'hui de cette vie éternelle. Mais attention, aujourd'hui, nous n'avons qu'un avant-goût de ce que nous allons goûter en ce jour-là. Connaître Jésus aujourd'hui, c'est la plus grande joie, le plus grand plaisir, le plus grand privilège que nous pouvons avoir ici-bas. Mais le connaître en ce jour-là va dépasser toutes nos attentes. Et notre espérance porte sur ce jour-là. Et cette espérance nous fait croire en Jésus. Elle nous conduit à mettre notre confiance en lui, être attaché corps et âme à lui, à l'aimer, à le chérir. Et cette espérance-là nous fait aimer nos frères et sœurs, avec qui on va partager ce jour, cette gloire. Ils sont des personnes qui ont goûté à cette même grâce. Ils ont la même espérance. Et puisqu'ils ont la même espérance, ils sont de la même famille, les enfants du même Père, du même grand frère, Jésus-Christ. Et c'est cette appartenance familiale qui suscite l'amour fraternel. Mais sans l'espérance, la foi et l'amour sont vidés de leur puissance. Alors lorsqu'on pense à l'espérance, je pense qu'il y a peut-être deux pièges qui nous guettent. Alors ça dépend peut-être de nos circonstances dans la vie. Un des pièges, c'est de vouloir tout de suite, de vouloir le ciel sur terre. Et l'autre piège, c'est de se contenter de ce qu'on a déjà, de se contenter de trop peu, d'aimer trop la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Dans les deux cas, c'est manquer d'espoir, ne pas avoir de l'espérance. Le premier piège va nous conduire à l'amertume et à la déception. Notre restauration complète, notre guérison physique, émotionnelle, psychique, totale, ces choses-là ne sont pas pour tout de suite. La communion parfaite, exaltante avec Jésus, n'est pas pour tout de suite non plus. Ces choses, nous les avons en espérance. Et c'est pour ça que nous attendons par la foi un Seigneur des cieux. Si nous pensons y avoir droit aujourd'hui, nous allons heurter le mur de la déception. Mais si nous espérons ce qui nous est réservé, non pas sur la terre, mais dans le ciel, nous nous attacherons à Jésus, qui est au ciel, et nous aimerons nos frères et sœurs, la famille de Jésus. Si en quoi déjà avoir le ciel sur terre, notre espérance sera bien fade, avec des répercussions dramatiques pour notre foi en Christ et notre amour fraternel. Je pense qu'on est probablement nombreux, malheureusement, à penser que le ciel sera simplement une petite amélioration sur notre existence ici-bas, déjà bien sympathique et confortable. Mais c'est une vision aveugle et aveuglante qui nous montre que nous n'avons pas encore saisi la grandeur, la splendeur de Jésus-Christ, car nos petits plaisirs, nos petits conforts sont rien à côté de Jésus, sont bien médiocres à côté de Jésus. Paul veut nous montrer dans son épître que l'avenir avec Jésus dépassera toutes nos attentes. Et cette espérance-là, si nos cœurs en sont animés, portera beaucoup de fruits. Alors Paul est rassuré. Il veut rassurer les chrétiens de Colosse parce qu'il a entendu parler de leur espérance, l'espérance que l'Esprit a suscitée dans leur cœur. Et Paul sait qu'ils ont cette espérance parce qu'il a déjà entendu parler de leur foi et de leur amour, les preuves de cette espérance. On va passer à cette deuxième section. Je vous rassure, plus brève que la première. Paul leur explique que si ces choses sont vraies, si ces marques authentiques sont bien là, c'est parce que la vérité, toute la vérité de l'Évangile est à l'œuvre chez eux. C'est la fin du verset 5 qui nous dit que cette espérance de la gloire de Christ vient de, je cite, la parole de la vérité, l'Évangile. Et c'est en l'entendant, en le comprenant, en le recevant, que cette espérance est née en nous. Paul veut les rassurer que s'ils ont cette foi sincère en Christ, cet amour fraternel, cette espérance de la gloire, c'est que l'Esprit a fait son œuvre par cette parole de vérité. Et donc, sous-entendu, ils n'ont pas besoin de chercher autre chose pour compléter cette parole. Plus loin, au chapitre 2, il va parler de philosophie, de règles, d'expériences spirituelles, d'autres choses qu'on peut, de manière erronée, ajouter à la parole. Et Paul les rassure en disant que ce qu'ils avaient reçu au début était la parole authentique. Cette parole est-il suffisante? Alors c'est tout simple en quelque sorte. Ils ont entendu un message. Et au verset 6, on voit qu'ils l'avaient reconnu. Et ça peut avoir l'air un peu trop simple. Entendre, accepter l'Évangile, entendre les promesses objectives de Dieu en Jésus-Christ, les accepter dans nos cœurs, y croire. Est-ce trop simple? Mais il faut que ce soit bien simple. Le verset 6 parle de connaître la grâce de Dieu dans la vérité. La grâce est un de ces mots qui résume toute la portée du message chrétien. La foi chrétienne n'est pas une solution par laquelle l'homme se rend acceptable à Dieu par ce qu'il fait, même par sa propre foi, mais une action de Dieu où Dieu rend l'homme acceptable à ses yeux de manière gratuite, comme un cadeau. C'est une action qu'on ne peut pas mériter. On doit entendre ce message et l'accepter. Recevoir le cadeau de la grâce, du pardon immérité. Et naturellement, nous avons tous du mal avec cette grâce. L'homme, dans sa fierté, ne veut pas être le débiteur de Dieu. Il ne veut pas lui devoir quelque chose, lui être redevable pour quelque chose. Naturellement, on veut gagner notre salut et même le maintenir nous-mêmes. Et c'est profondément humiliant de savoir que non, du début jusqu'à la fin de la vie, ne serons que des débiteurs, des personnes endettées jusqu'au cou, car nous devons tout à sa grâce, à sa clémence, à sa bonté. La grâce est au cœur de ce message de paix. C'est cette grâce qui produit l'espérance. Si nous avons été pardonnés, pardonnés à tout jamais, si nous avons été acquittés, justifiés, nous pouvons oser espérer. On peut espérer avec certitude que nous serons avec Dieu éternellement. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de ce que Jésus a fait sur la croix. La grâce rend possible cette espérance. Et si nous avons cette espérance, nous nous attachons à Jésus et nous commençons à aimer nos frères et sœurs. Mais là où la grâce est absente, mal comprise, rejetée par peur parfois ou par orgueil, nos cœurs sont envahis et tenus par l'incrédulité, par l'amertume, par la peur. Et tout naturellement, on va essayer, tant bien que mal, de trouver notre confort, notre assurance ailleurs qu'en Christ. Paul veut rassurer les Colossiens. Cette grâce est toute simple, mais elle est toute la vérité. Et c'est cette même grâce qui a porté du fruit chez eux qui porte du fruit ailleurs dans le monde. Leur foi n'est pas partielle ou inadéquate, elle est celle de leurs frères et sœurs de par la surface de la terre. Et Paul termine en évoquant celui qui leur a annoncé le message de la grâce de Dieu, Epaphras. Son compagnon de service, ou littéralement son co-esclave, il était plutôt un serviteur fidèle. Et c'est vrai, Dieu utilise de tels hommes pour apporter son message de vie et d'espérance. Ces hommes sont bien faibles. Paul est bien faible. Il écrit de sa prison, ou la maison peut-être où il a été emprisonné à Rome. Mais le message n'est pas faible. Ce message est bien puissant, puisque c'est le message d'un sauveur qui est le Seigneur, d'un Seigneur qui est suffisant, bien suffisant. Paul va revenir à l'exemple d'Epaphras plus loin dans sa lettre, mais déjà son exemple donne envie, n'est-ce pas? Epaphras a été transformé par le message de l'Évangile. Il avait probablement entendu à Éphèse, là où Paul enseignait la parole pendant 2 ans. Et après l'avoir entendu, il n'avait qu'un seul désir, c'était le désir d'aller le partager avec sa famille, ses amis, les habitants de sa ville de Colosse. Et certains, après avoir entendu ce message, sont venus à la foi. Ils ont été délivrés du royaume des ténèbres. Et l'Évangile fait ça. L'Évangile nous donne un but dans la vie. Il nous enrôle dans l'équipe. Et c'est beau à voir. C'est beau de voir l'équipe de Paul à l'œuvre. Cette amitié entre les collaborateurs, la confiance dans le travail. Et Dieu est en train de faire de nous des membres de son équipe, des co-esclaves avec Paul et Epaphras. Et c'est l'Esprit par la parole qui fait ça. Peut-être que vous êtes là depuis quelques semaines seulement, ou peut-être que ça fait un moment que vous êtes là. Je pense que c'est bien de se poser la question, est-ce que je suis prêt à faire équipe avec l'Église ici sur place, dans le témoignage, là où Dieu vous envoie, dans la vie quotidienne, dans l'enseignement peut-être, dans la prière, par les finances, par l'encouragement mutuel. Oui, chacun selon ses dons, selon ses circonstances, ses opportunités. Ce n'est pas une question de trouver sa place à l'Église comme s'il n'y a qu'une seule place pour chacun. Mais notre place est déjà là. Paul est en train de nous dire, voilà, la place est là. C'est la place de la foi, de l'espérance, de l'amour. C'est une question de saisir toutes les occasions d'aimer, d'encourager, de fortifier la foi de nos frères et sœurs, de les aider à garder leurs yeux fixés sur Jésus, sur cette espérance réservée dans le ciel. Voici le tableau d'une église authentique, née et nourrie de la parole authentique, et cette grâce époustouflante, suffisante que nous avons en Christ, grâce à Jésus. C'est cette grâce qui nous donne cette espérance et qui nous fait porter ses fruits. Notre espérance sûre et certaine d'être avec lui, à tout jamais. Ne soyons pas bluffés par la simplicité de ce message. Ça peut être un peu déconcertant par moments, dire « est-ce que c'est que ça ?» Mais oui, c'est ça. ne cherchons pas à rajouter des trucs qui, à premier abord, peuvent sembler peut-être plus religieux, plus impressionnants. Jésus est suffisant. Et on le voit lorsqu'on voit la foi, l'amour et l'espérance parmi nous. Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Père pour cet évangile. Notre Père, tu n'étais pas obligé d'avoir une bonne nouvelle. Tu aurais pu nous laisser dans nos péchés, dans nos fautes, dans la condamnation. Mais tu as envoyé ton Fils Jésus qui a pris notre place à la croix. Merci de ce que cette parole, cette bonne nouvelle est efficace, puissante. Merci de ce qu'elle puisse, elle peut changer nos vies. Et merci pour l'espérance qu'elle nous donne. L'espérance d'être avec toi. Merci de ce que cette espérance ne dépend pas de nous, de nos circonstances, de notre performance, mais elle dépend de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et nous savons que tu as déjà accepté cette œuvre parce que tu as ressuscité ton Fils. Merci de ce que cette espérance est sûre et certaine. Aide-nous à fixer nos regards sur Jésus cette semaine. Aide-nous à l'aimer davantage, à espérer davantage en lui et à porter ses fruits de la confiance en lui et de l'amour fraternel. Nous avons besoin de ton aide. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.